Habituellement, quand on parle d'un diagnostic, que ce soit en médecine ou même en mécanique, on s'attend toujours à une précision absolue.
Ouais, une précision froide, quoi.
C'est ça. Quelque chose de presque rassurant. Tu te casses le bras, tu fais une radio, et la radiographie, elle montre une ligne blanche bien nette.
Une fracture évidente.
Voilà. Et le médecin pointe le doigt sur l'écran en te disant, voilà le problème, c'est exactement là. On te met un plâtre, et boum, c'est réglé.
Exactement. C'est un système binaire en fait. C'est cassé ou ça ne l'est pas. La cause et l'effet sont parfaitement lisibles sur un écran extérieur.
C'est super clair. Et l'esprit humain, il adore ça. On adore quand les choses sont visibles, mesurables, faciles à ranger dans des petites cases.
C'est confortable.
Très confortable. Mais dès qu'on quitte le monde physique pour s'aventurer dans le domaine de la psychologie humaine sous pression, là, soudainement, la machine à rayons X, elle ne fonctionne plus du tout.
Plus du tout, ouais. Le brouillard complet.
On se retrouve face à un paysage analytique qui est complètement trouble. Et c'est exactement ce qui rend notre exploration en profondeur aujourd'hui si captivante. Parce que le sujet du jour, c'est pas une énième analyse financière sur la façon de décoder l'économie.
Ou de battre les marchés avec une formule magique.
Voilà, c'est une plongée fascinante dans l'esprit humain quand il est, disons, soumis au chaos total.
Et les sources sur lesquelles on s'appuie pour décrypter ça aujourd'hui, elles sont assez exceptionnelles. C'est pas du tout un manuel d'économie classique.
Ah non, pas du tout.
Ce sont quatre textes datés de mai 2026 qui sont extraits d'un carnet de bord privé, un truc qui s'intitule Le miroir intérieur, écrire pour comprendre.
Le titre est déjà super évocateur.
N'est-ce pas? L'auteur, c'est un certain C. Vepani. C'est quelqu'un qui opère sur les marchés financiers. Mais il a décidé de renverser complètement la perspective habituelle de son métier.
Et par extension de la prise de décision en général, en fait. Bon. Décortiquons tout ça, parce que l'approche de cet auteur est pour le moins singulière.
C'est le moins qu'on puisse dire.
La mission de notre discussion aujourd'hui, c'est vraiment d'extraire les véritables pépites de sagesse de ce document. Et ce qui saute aux yeux dès la toute première page, c'est que Vepani n'écrit pas du tout sur ses coups de génie.
Zéro vantardise, ouais.
C'est ça, c'est pas un texte d'autocongratulation sur ce qui l'a rendu victorieux, genre « regardez comme je suis fort ». Il explique d'emblée que ces textes, c'est le fruit des leçons hyper douloureuses qu'il a tirées de ses échecs cuisants.
Ses pires moments.
Ouais. Mais là où j'ai vraiment besoin de jouer l'avocate du diable avec toi, c'est sur son postulat de base.
Vas-y.
Vepani affirme que pour réussir dans un environnement qui est chaotique et imprévisible, l'objet d'étude ne doit pas être le système extérieur, donc le marché, mais l'individu lui-même. Moi, ça me semble totalement contre-intuitif.
Ah ça surprend toujours au début.
Je veux dire, si je veux gagner une course automobile, je dois étudier le circuit, la météo, la concurrence, non? Pourquoi je devrais me focaliser uniquement sur moi-même?
C'est une excellente provocation et c'est précisément le point de départ radical de ses écrits. Pour reprendre ton analogie de la course, Vespani, il dirait que le circuit change de forme à chaque tour.
Ah oui, d'accord.
Et que la météo, elle est totalement aléatoire. Donc si on passe tout son temps à essayer de prédire un environnement qui est par nature imprévisible, en fait on gaspille purement et simplement son énergie cognitive.
On s'épuise pour rien, quoi.
Exactement. Ces textes, ils bouleversent une idée préconçue très ancrée, pas seulement dans la finance d'ailleurs, mais dans toute notre culture de la performance. C'est cette idée que l'attention constante et l'action équivalent toujours à la compétence.
Cette fameuse illusion de l'action, on s'agite donc on est utile.
Voilà. Et Vepani démontre, vraiment étape par étape, que cette équation est non seulement fausse, mais que c'est carrément la cause principale de la ruine psychologique.
Parlons justement de cette illusion de l'action, parce que le premier texte, il s'attaque à un mythe absolument massif. Quand on regarde l'infrastructure moderne autour de l'investissement de détail, tout semble construit sur une ingénierie de l'interruption.
Oh que oui, c'est fait pour ça.
On a les notifications push sur les téléphones, les canaux télégrammes qui vibrent toutes les 2 minutes avec des alertes soi-disant urgentes, des dizaines d'indicateurs qui clignotent frénétiquement en rouge, en vert.
C'est un casino portatif, en gros.
Totalement. Et tout ce système, il nous vend une promesse implicite qui est super séduisante. C'est l'idée que plus on est actif, plus on absorbe d'informations en temps réel, plus on aura de résultats. On finit par confondre la transpiration avec la direction.
Ce qui est fascinant ici, c'est l'analyse clinique que fait l'auteur de l'industrie qui nous entoure. Il rappelle une vérité économique super simple. L'industrie financière de détail, donc les courtiers, les plateformes, ceux qui vendent des signaux, ils ont viscéralement besoin de notre attention continue.
Pour générer des frais de transaction, c'est ça.
Exactement, ils ont besoin de volume. Mais Cette attention forcée, cette obligation qu'on ressent de devoir toujours surveiller, ça génère ce que Fepani appelle du signal artificiel.
Du signal artificiel, d'accord.
Il explique qu'il y a en gros deux postures mentales face à un environnement qui n'offre pour le moment absolument aucune opportunité valide.
Quand il se passe rien, quoi.
Ouais. La première posture, c'est celle qui est encouragée par le système. C'est de forcer l'analyse, de zoomer sur les données, de chercher plus loin, d'ouvrir de nouveaux graphiques, jusqu'à trouver une raison d'agir.
Ah, en lisant cette partie sur la recherche désespérée d'un signal, ça m'a immédiatement fait penser à un phénomène cognitif hyper connu, la pareidolie.
Ah oui, très juste.
Tu sais, c'est cette tendance naturelle de notre cerveau à trouver des formes familières dans des stimuli visuels qui sont totalement aléatoires.
Les nuages, par exemple.
C'est exactement ça. C'est ce qui se passe quand on s'allonge dans l'herbe un jour d'été pour regarder les nuages. Au début, tu vois juste des masses de vapeur d'eau, complètement amorphes.
Des trucs gris ou blonds, sans forme.
Mais si tu te concentres, si tu cherches à tout prix un visage, ton cerveau, qui déteste le vide et le manque de sens, il va finir par en créer un.
Il va forcer le motif.
Ouais. On va percevoir un profil super net, un œil, un sourire. Et dans un environnement saturé de données financières, c'est le même mécanisme à l'œuvre. Quelqu'un qui cherche une opportunité à tout prix va finir par voir une configuration technique parfaite, là où il n'y a en réalité absolument que du bruit statistique.
C'est une comparaison redoutable de précision. Le cerveau humain, c'est fondamentalement une machine à créer des motifs. Donc, sous la pression, interne ou externe d'ailleurs, de devoir faire quelque chose, il invente des justifications.
Pour se rassurer.
Voilà. Et c'est face à cette faille neurologique que Fepani introduit un concept qui traverse vraiment tout son carnet. C'est la patience profonde. Et il fait super attention à bien la séparer de ce qu'on appelle la patience au quotidien.
Oui, il fait une distinction très nette là-dessus. Il dit que la patience ordinaire, enfin celle qu'on utilise tous les jours, elle finit toujours par s'épuiser.
Exactement. Parce que la patience commune, elle attend quelque chose. Elle est liée à un objet spécifique.
Tu attends que le bus arrive.
C'est ça. On attend un bus, on attend la réponse à un email important. Ou dans le cas de Fepani, on attend qu'un prix atteigne un certain niveau sur un graphique.
D'accord.
Et parce qu'elle espère une résolution, une récompense à la fin de l'attente, cette patience-là, c'est juste un compte à rebours mental. Elle finit inévitablement par s'user, par générer de la frustration si la récompense met trop de temps à arriver.
On a tous connu ça, l'agacement dans la file d'attente.
Voilà. La patience profonde, en revanche, elle exige de n'attendre rien de précis. C'est la capacité d'accepter l'idée que rien ne se produira peut-être aujourd'hui, ni demain, ni la semaine prochaine.
Waouh, c'est dur ça.
Très dur. Mais comme elle n'a pas d'objet d'espérance, elle ne s'épuise pas. C'est un état de tolérance totale au vide.
Mais attends, il pousse cette tolérance hyper loin dans sa pratique. Et c'est là que j'ai un peu envie de repousser l'idée. Parce que il explique qu'il regarde un seul actif par session pendant une heure grand maximum.
Oui, c'est sa règle stricte.
S'il identifie une zone intéressante, il place une alerte informatique et il ferme l'écran.
Il coupe tout.
Il écrit qu'il ne regarde même pas la position évoluée. Moi, je veux bien comprendre l'idée de se détacher, mais on est en 2026. Les marchés bougent à la vitesse de la lumière à cause des algorithmes. Fermer son écran quand on a de l'argent en jeu, ça frise pas un peu la négligence, honnêtement.
C'est la réaction instinctive de tout le monde en lisant ça.
Oui. Si une nouvelle macroéconomique tombe soudainement, c'est super dangereux financièrement d'ignorer la situation, non ?
C'est précisément le piège. Fepani te répondrait que ton risque, il est censé être déjà géré avant même l'entrée, par des ordres de protection automatiques.
D'accord, l'infrastructure gère le risque.
Ce qu'il essaie de démontrer, c'est que regarder l'écran, ça ne te donne absolument aucun contrôle sur la fluctuation du prix. Tu peux pas faire monter une courbe par la seule force de ton regard.
C'est vrai. C'est pas de la télékinésie.
Exactement. En revanche, ce que l'écran contrôle en retour, c'est ton état émotionnel. Chaque petit tic vers le haut génère une microdose de dopamine. Chaque tic vers le bas sécrète du cortisol, l'hormone du stress.
On devient accro aux variations.
Rester devant l'écran, ça transforme une exécution stratégique pure en une montagne russe hormonale. Donc fermer l'ordinateur, c'est pas de la négligence. C'est une mesure de préservation de son propre capital cognitif.
D'accord. Vu sous l'angle de la préservation cognitive, ça prend tout son sens. Et c'est directement lié à son refus catégorique d'optimiser ses méthodes.
Ah, ça c'est un point majeur.
Parce qu'on vit dans une époque où on nous matraque avec l'optimisation continue. Optimiser notre routine matinale, notre sommeil, notre productivité. Et lui dit que bah, optimiser un système qui fonctionne déjà, c'est le détruire.
C'est le paradoxe de l'optimisation. Vepani utilise une métaphore mathématique très puissante pour l'expliquer.
Ah oui, l'histoire de l'équation.
Voilà, imagine qu'une stratégie, c'est une équation simple. 1 plus 1 égale 2.
Basique.
Très basique, mais ça marche. Seulement, si tu te dis « je vais ajouter une petite variable pour l'optimiser un peu », tu ajoutes, disons, 0,3.
D'accord, pour être plus précis.
Tu penses que tu améliores l'équation, mais c'est faux. Tu en crées une nouvelle. 1 plus 1 plus 0,3, ça fait 2,3. Et le drame, c'est que tout ton historique de connaissances sur la première équation devient obsolète.
Tout ce que tu as appris avant ne sert plus à rien.
Exactement.
À chaque fois qu'on ajoute une variable pour soi-disant filtrer des erreurs passées, on remplace la méthode. On se condamne à être un éternel débutant qui repart de zéro à chaque itération.
C'est fou. Et c'est là qu'il assène cette phrase géniale que j'adore. Le trader ennuyé est un mauvais client pour l'industrie. L'ennui, qui est perçu comme une tare dans notre société, bah chez lui, ça devient une forteresse.
Un bouclier actif contre la sursollicitation.
Exact. Mais bon, cela soulève une vraie problématique psychologique que le carnet aborde juste après. Si cet ennui est si protecteur, si la simplicité est si efficace, pourquoi c'est si atrocement difficile à mettre en pratique, en vrai ?
Ouais.
Pourquoi des gens brillants finissent par saboter des plans qui sont pourtant très simples ?
Ça, c'est la transition parfaite vers la deuxième grande idée de Vepani. Je crois qu'on déteste l'ennui parce que la culture populaire nous a complètement lavé le cerveau sur ce à quoi ressemble le travail acharné.
C'est clair.
On a tous en tête cette image d'Épinal, tu sais, qui vient des films d'Hollywood. Le mythe du trader épuisé, le type avec la cravate dénouée, les manches retroussées, les yeux hyper cernés, qui hurle dans un téléphone entouré de 8 écrans avec son café froid.
Le chaos organisé.
Voilà. On a fini par associer intimement la douleur de l'effort, la sueur et la complexité à la légitimité du résultat.
C'est le mythe de la souffrance vertueuse, ça. L'idée que si c'est pas incroyablement complexe et douloureux, bah on mérite pas de gagner. Or, dans la prise de décision sous incertitude, la complexité, elle a un coût d'exécution qui est dramatique.
Ah oui, il donne un chiffre là-dessus d'ailleurs.
Oui. Vepani énonce une vérité implacable. Une stratégie complexe, qui est brillante sur le papier, mais qui n'est suivie qu'à 80% dans la réalité, parce qu'elle est trop lourde cognitivement sous le stress, bah c'est plus la stratégie initiale.
C'est du bricolage.
C'est une méthode non testée qu'on exécute à l'aveugle.
Donc, viser la simplicité extrême, c'est pas du tout un manque d'ambition intellectuelle. C'est un pur impératif de survie. Mais pour accepter de ne rien faire, il faut arrêter de voir son environnement comme un monstre à abattre.
Voilà le vrai changement de paradigme.
C'est là que ça devient vraiment intéressant, parce qu'il opère un renversement philosophique total sur la nature même du marché. Il explique que le marché n'est pas un adversaire.
C'est sans doute l'un des passages les plus profonds de tout le texte. Il détruit complètement cette idée d'une adversité extérieure. Le marché, c'est une entité neutre. C'est juste un agrégat de transactions mondiales.
Il n'a pas d'ego, quoi.
Il ne ressent rien, il n'a aucune volonté propre. Il ne conspire pas contre toi, il ne punit personne et ne récompense personne. Il se contente juste de fluctuer. Et, si on relie ça à une vision plus globale, Vepani affirme que le marché agit strictement comme un miroir.
Un amplificateur de nos propres failles.
Absolument. Le marché, c'est un miroir grossissant impitoyable de ce que l'individu porte déjà en lui, avant même de s'asseoir à son bureau.
D'accord.
Si une personne ressent une boule d'anxiété en prenant une décision, bah, le marché n'a pas créé cette anxiété. Elle était déjà là, latente.
Cachée quelque part.
Issue de son passé, de ses doutes ou même de sa propre gestion financière personnelle. Le besoin urgent de revanche, l'avidité dévorante, la peur de manquer une opportunité. L'environnement extérieur ne fait que refléter ces états et les exacerber jusqu'au point de rupture.
Et cette réalisation, bah, elle bouleverse complètement la façon dont on est censé documenter son propre parcours. Parce qu'on conseille toujours aux pros de tenir un journal de bord rigoureux.
Le fameux journal de trading.
Oui, mais qu'est-ce que les gens mettent dedans en général ? Des captures d'écran, des courbes de prix, des analyses macroéconomiques.
Tout ce qui est externe.
Exactement. Et Vepani souligne que documenter tout ça, c'est passer son temps à documenter la variable la moins modifiable de toute l'équation. Peu importe le nombre de captures d'écran que tu gardes, bah tu pourras jamais contrôler le comportement du prix futur.
Jamais. Et le faire, ça donne une dangereuse illusion de contrôle. On se convainc qu'en étudiant la géométrie d'une situation passée, on pourra dompter la suivante. Vepani a une approche radicalement différente. Lui, il documente l'invisible.
Et sans journal, il est fascinant du bizarrerie quand on y pense.
C'est clair.
Il n'y a quasiment aucun prix mentionné dedans. Pas de graphique bariolé. Il écrit par exemple sur la qualité de son sommeil la nuit d'avant.
Oui.
Il prend la peine de noter la petite dispute qu'il a eue avec un proche le matin même. Ou son niveau d'énergie physique. Il note le fil de pensée exact qu'a traversé son esprit la seconde juste avant d'appuyer sur le bouton.
Et pourquoi il fait ça? Parce que, comme il l'affirme, la psychologie du décideur, c'est vraiment la seule variable de toute cette affaire qui soit modifiable et qu'on puisse entraîner.
C'est la seule manette sur laquelle on a la main.
Exact. Cette dispute avec un proche dont tu parles, bah, c'est pas une anecdote sans importance pour lui. C'est le filtre émotionnel précis à travers lequel il va interpréter la prochaine baisse de prix.
Waouh.
Et c'est là que le carnet nous ramène, de façon assez inattendue, à une sagesse millénaire. Le précepte antique qui était gravé sur le temple de Delphes. Le fameux « connais-toi toi-même ».
Ouais, qu'on a souvent perçu comme une petite phrase de développement personnel un peu floue.
C'est ça. Pendant des siècles, on a eu tendance à lire cette maxime comme une quête spirituelle abstraite, un truc réservé aux philosophes en tauge. Mais dans le contexte de la prise de décision sous haute pression, Venepani nous montre que c'est en fait l'instruction la plus terre-à-terre du monde.
C'est très pragmatique.
C'est littéralement un manuel d'opération. Puisque l'environnement chaotique n'est qu'un miroir, bah c'est absurde de passer sa vie à étudier la surface du verre. La seule démarche logique, c'est d'étudier le visage qui s'y reflète.
C'est tellement pertinent. Et même pour ceux qui écoutent et qui ne s'intéressent pas du tout à la finance, c'est comme entrer dans une salle pour négocier son salaire avec son patron juste après avoir renversé du café sur sa chemise dans le bus.
À l'horreur.
Mais oui, si tu n'as pas conscience que cet incident mineur a complètement sapé ta confiance en toi pour les deux prochaines heures, bah tu vas accepter une mauvaise offre. Et pas à cause des arguments de ton boss, mais à cause de la tache de café.
C'est une transposition parfaite, franchement.
Mais alors, ça nous amène à une question critique. Imaginons que le travail est fait, on a purifié sa stratégie, on l'a rendue aussi simple qu'une équation de base, on accepte l'ennui sans broncher, on tient notre petit journal méticuleux sur notre sommeil et nos disputes.
On est blindé.
Sur le papier, on est devenu une forteresse imprenable. Mais est-ce qu'on est pour autant à l'abri de l'échec? Vaupupani répond que non, parce qu'il reste une dernière menace sournoise. Le troisième segment de son carnet explore ce qu'il nomme, de façon très poétique d'ailleurs, le glissement du plan.
Ah, le glissement du plan! C'est sans doute le concept le plus redoutable de tout ce corpus. Vraiment, parce qu'il opère totalement dans l'ombre.
C'est le tueur silencieux.
Et qu'on réfléchit calmement. Le glissement, c'est une modification qui se produit à chaud, au cœur de l'action.
Sous la pression.
Sous le poids écrasant de la pression du moment présent, oui.
Mais comment ce glissement, il se manifeste dans la réalité concrète? Je veux dire, on ne se lève pas soudainement de sa chaise en se disant « Ah, tiens, je vais tout casser aujourd'hui ».
Jamais. L'auto-sabotage, c'est rarement spectaculaire au début. Imaginons quelqu'un qui a un plan strict. Il s'est engagé à risquer très exactement 1% de son capital sur chaque idée. La routine s'installe, tout va bien.
Ok.
Et puis survient une petite tension, peut-être une série de pertes consécutives qui vient inoculer un doute. Ou à l'inverse, hein, une grande victoire qui génère un sentiment d'invincibilité.
Le fameux excès de confiance.
Soudainement, au moment de s'engager, la main hésite. L'esprit rationalise et se dit « Le contexte est un peu incertain, je vais réduire mon risque à 0,5% par précaution. »
Ça a l'air raisonnable, dit comme ça.
Ou à l'inverse, « Je le sens vraiment bien ce coup-là, je passe à 1,5% pour rattraper mes pertes plus vite. » C'est une modification silencieuse, millimétrique. Elle n'est même pas perçue comme une violation flagrante des règles.
Mais c'est ça le vrai danger. Sur le moment, cette déviation, bah, elle porte le masque du bon sens. Et ça me fait terriblement penser à la psychologie des régimes alimentaires.
Ah oui, l'exemple classique.
Encore.
Je l'ai bien mérité.
Voilà. J'ai été irréprochable lundi, j'ai une journée épuisante. Je vais juste m'accorder ça pour compenser. J'adapte mon régime à mon niveau de stress. Le glissement, il frappe pas à ta porte avec une pancarte clignotante « erreur fatale ». Il s'infiltre en te murmurant « t'inquiète pas, c'est juste de la flexibilité contextuelle ».
La fameuse flexibilité et l'utilisation du mot « adapté » ou « flexibilité », c'est un piège sémantique colossal.
C'est pour se donner bonne conscience.
L'adaptation donne à notre ego l'illusion d'une continuité qui serait intelligente. Alors qu'en réalité, bah, comme pour l'équation de tout à l'heure, il y a une rupture structurelle totale. Au moment précis où on modifie la taille de la position ou les règles, en pleine action, on ne traite plus sa stratégie mathématique.
On traite quoi alors?
On est en train de trader ses propres émotions, qui sont déguisées sous des termes techniques.
D'accord. Mais alors, posons la question qui fâche vraiment. Que se passe-t-il si cette modification impulsive, donc ce fameux bout de gâteau, ou cette augmentation du risque à 1,5%, entraîne un résultat positif ?
Oula.
Si je change les règles à chaud, en plein stress, et que bah, ça marche, que je gagne de l'argent.
Alors là, c'est le scénario catastrophe absolu. Le pire mis en lumière par Vespani.
Vraiment. Pire que de perdre.
On pourrait penser qu'une perte est le pire résultat. Mais non. Un résultat financier positif qui est issu d'une mauvaise décision procédurale, c'est un poison psychologique à retardement.
Pourquoi ?
Parce que le cerveau humain, il fonctionne par renforcement. Il associe immédiatement la décharge de dopamine de la récompense, donc le gain, au comportement qui l'a précédé, donc le glissement impulsif des règles. La modification destructive vient d'être validée par l'environnement.
Oh, waouh ! On vient littéralement d'apprendre à notre cerveau que désobéir au plan, bah, c'est récompensé.
C'est tragique. Car un événement isolé, le dénouement d'une seule action, bah, ça n'a aucune valeur statistique fiable dans un système complexe. Ce qui garantit la survie à long terme, c'est la séquence.
La répétition.
C'est la répétition sans faille de l'équation initiale sur des centaines, voire des milliers d'occurrences, avec des paramètres d'exécution qui doivent rester strictement identiques. Gagner de l'argent en violant son propre plan de vol, c'est signer l'arrêt de mort de sa discipline à long terme. Sur cette action individuelle, l'individu a gagné, d'accord ? Mais le système qui devait le protéger vient de mourir.
C'est terrifiant quand on y réfléchit bien. Parce que c'est une destruction qui est complètement invisible. On se ruine à petit feu. Et chaque petite victoire obtenue hors du plan nous convainc, avec beaucoup d'arrogance d'ailleurs, qu'on a un don spécial.
Qu'on est au-dessus des règles.
Qu'on a eu raison de s'écarter de la route. Mais alors, comment le journal introspectif de Vepani aide-t-il contre ça ? Si le glissement est si insidieux dans l'instant, est-ce que le journal peut vraiment nous en empêcher quand la pression monte ?
Non. Et c'est une nuance cruciale à comprendre sur la nature de cet outil. Le journal, au moment précis où la pression est à son comble et que ton doigt tremble sur le bouton, il ne te protège pas.
C'est pas un bouclier en temps réel.
C'est pas un bouclier magique, non. Ce qu'il offre, c'est une cartographie détaillée a posteriori. En relisant ses notes de la semaine le dimanche soir, par exemple, en observant son état mental de l'époque et ses justifications du type « j'ai coupé cette position trop tôt par prudence » ou « j'ai augmenté la taille car j'avais un pressentiment ».
Les fameux pressentiments.
Voilà. En lisant ça, Vepani peut observer ses déviations avec une lucidité froide.
Il voit le motif se dessiner avant qu'il ne s'imprime définitivement dans son cerveau.
Exactement. Mises bout à bout sur le papier, ces micro-déviations, bah, elles ne ressemblent plus du tout à de la flexibilité contextuelle. Elles dessinent très clairement un comportement systémique de fuite ou d'avidité qui s'éloigne dangereusement de la méthode de base.
D'accord, c'est comme une boîte noire d'avion.
C'est exactement ça. Le journal agit comme une boîte noire après un incident de vol. Il permet de lire cette dérive comportementale avant qu'elle ne s'ankylose, avant qu'elle ne devienne la nouvelle norme inconsciente de l'individu. Reconnaître le glissement en lisant sa propre prose, c'est le seul moyen de pouvoir le ralentir la semaine suivante.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour nous tous ? Si on rassemble un peu toutes les pièces de ce puzzle psychologique qui est particulièrement dense, on s'aperçoit que la vraie performance, la maîtrise véritable d'un art ou d'une profession sous pression, ça ne provient jamais d'une frénésie d'action.
Jamais.
Ça ne vient pas de l'accumulation compulsive de données sur le monde extérieur, ni du fait d'acheter des écrans supplémentaires. Ça vient de la dissociation radicale.
Du recul.
Du courage. De laisser la situation respirer, d'accepter une tolérance presque ascétique à l'ennui pour empêcher le cerveau de fabriquer des mirages. Et surtout, ça demande une discipline d'acier pour refuser catégoriquement de modifier les variables de sa propre recette sous le feu des émotions.
Le plus frappant là-dedans, c'est de réaliser à quel point cette leçon déborde largement du cadre très étriqué des marchés financiers. Les réflexions de Vepapini, bien qu'elles soient ancrées dans la mécanique froide de l'investissement de capital, elles forment en réalité un manuel de survie décisionnelle universel.
C'est applicable partout.
Partout. Les principes de protection contre le bruit, la connaissance de soi comme outil d'opération et la vigilance absolue contre le glissement des intentions, ce sont des armes de construction massive pour n'importe quel environnement qui est saturé d'informations, d'incertitudes, de pression sociale.
C'est d'une pertinence absolue, ouais, pour la gestion de nos carrières, la tenue de nos engagements personnels avec nos proches, et même notre façon de naviguer dans le flux continu de l'actualité qui nous bombarde tous les jours.
Absolument. Et cela soulève une question importante, qu'il vaut sans doute la peine d'explorer bien après la fin de cette discussion.
Laquelle ?
Quand on observe attentivement l'obsession de la société moderne pour la productivité continue, cette injonction permanente à l'optimisation de soi, au fait de devoir remplir chaque minute de vide par un audio, un article, une tâche, une notification.
L'horreur du vide.
Exactement. Et si tout cela n'était, au fond, qu'une immense et collective forme de glissement du plan, mais à l'échelle de nos vies entières.
Oh, c'est profond ça.
Une fuite en avant perpétuelle, tu vois. Un besoin désespéré de complexifier nos quotidiens pour nous donner l'illusion étourdissante du contrôle. Et tout ça, simplement parce que nous sommes terrifiés par le silence de notre propre miroir.
On s'agite pour ne pas se regarder en face, en fait.
C'est ça. Peut-être que cette course effrénée vers l'avant nous prive très exactement de cette fameuse patience profonde dont parle l'auteur. Cette capacité d'attente sans attente qui est pourtant la seule condition indispensable pour laisser émerger les décisions qui comptent véritablement, dans un monde qui a, semble-t-il, complètement oublié comment s'ennuyer.